Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Future monnaie de l'espace CEDEAO, quelles sont les possibilités de convertibilité qui s'offrent à cette monnaie commune des pays de l'Afrique de l'Ouest? Faustin Onozon, économiste, expert en intelligence économique, nous en parle dans le cadre de ce numéro d'Economia, l'écho, la monnaie de la CEDEAO. Il en sera essentiellement question dans cette émission que nous vous invitons à suivre et c'est maintenant avec Jean-Claude Comé.
Regard sur la gestion économique nationale.
Toujours un plaisir d'être en compagnie de Faustin Onozon. Vous le connaissez, il nous permet d'avoir des informations utiles dans le cadre de cette rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci. Et nous parlons toujours économie avec vous. Nous allons nous intéresser à un sujet qui nous concerne. C'est une question qui touche la sous-région, la question de la monnaie éco, cette future monnaie que les pays membres de la CEDEAO compte mettre en place. Alors, petite historique de cette monnaie, l'éco, c'est parti de quelle idée, M. Faustin Onozon?
Merci, M. Comé. Vous savez que l'Union fait la force. Et si certains pays acceptent de perdre leur souveraineté, parce que dès lors que vous rentrez dans une union économique et monétaire, ça veut dire que vous avez une souveraineté commune, elle n'est plus individuelle. Et la souveraineté commune met toujours l'accent sur la force en matière économique et financière. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée-là. Plutôt que d'avoir plusieurs monnaies dans un seul espace, on partage déjà l'espace dans le cadre de la CEDEAO, mais pourquoi ne pas avoir une seule monnaie? Parce que l'intégration économique, elle est déjà effective. Une intégration économique est effective sans intégration monétaire, c'est un peu comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Il est donc important et même plausible de mettre l'accent sur l'intégration monétaire.
Alors justement, l'intégration monétaire de cette multiplicité de monnaies, de zones monétaires, on peut le dire, quand nous jetons un coup d'œil sur l'espace CEDEAO, on a d'un côté l'espace UEMOA qui a une monnaie, donc le franc CFA, qui concerne 8 pays. Et puis, il y a des autres monnaies, le Ghana donc a le Cedi ghanéen, le Nigeria le Naira, le Libéria, bien d'autres monnaies en tout cas. Il y a donc la zone UEMOA et puis la zone non UEMOA. Comment on peut intégrer tout cela? Puisque l'idée, c'est d'intégrer pour avoir une monnaie commune.
Oui, en fait, la zone UEMOA, qui a une longue expérience en matière de gestion de l'intégration monétaire, elle repose sur un taux d'échange qui est fixe. Et puis, la monnaie que nous avons ici, qui est le franc CFA, est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Voilà un peu tout ce qui est spécifique à la zone UEMOA. Et tout ce qui est échange fixe, c'est ceux qui ne veulent pas avoir de difficultés en matière de gestion de leur politique monétaire. Ceux qui veulent savoir que demain sera toujours la même chose, ou alors demain sera bénéfique et que demain ne va pas nous créer des difficultés. Et ceux qui estiment qu'il faut aller pas à pas dans la gestion des politiques économiques et financières, ces pays-là choisissent la zone d'échange qui est fixe. Et puis de l'autre côté, où nous avons une zone d'échange flottant, c'est les autres pays comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée, pour ne m'arrêter que là. Mais ce qu'il faut aussi voir dans cette politique-là, c'est qu'il y a un certain dynamisme qui s'opère lorsque vous êtes dans une zone d'échange flottant. Votre monnaie, elle évolue d'elle-même, elle a tous les atouts et vous appartient maintenant à vous de travailler, d'avoir toutes les compétences financières nécessaires. Et en matière de gestion de la politique économique et financière, dans ce cadre bien précis, c'est d'avoir toujours, au niveau de sa balance des paiements, une première ligne qui n'est pas déficitaire, donc qui est excédentaire. Et dès lors où votre première ligne est excédentaire, c'est-à-dire l'ensemble de votre solde, le solde qui concerne vos opérations commerciales, si ce solde-là est excédentaire, il va sans dire que vous aurez toujours une monnaie qui est très forte. Mais si ce solde devait être déficitaire et que vous devez compter sur le second solde, c'est-à-dire sur vos amis ou alors sur vos bons et obligations que vous allez placer à l'étranger, s'il y a une difficulté politique majeure, il va sans dire que vous aurez des difficultés pour agencer vos politiques financières. Donc, il faut avoir une force, une valeur intrinsèque pour pouvoir gérer au mieux sa monnaie quand on n'est pas dans une zone d'échange fixe.
En tout cas, tableau qui est présenté, une zone où il y a une monnaie fixe et puis une autre zone où les monnaies sont flexibles. Alors justement, fort de ce constat-là, ces différents pays décident d'aller à une monnaie unique. rappelle en tout cas de l'évolution de cette monnaie. On avait déjà annoncé une première date, 2020, date qui n'a pas été respectée. On parle d'une perspective 2027. Voilà, selon vous en tant qu'économiste, justement, quelles sont les étapes pour arriver à cette monnaie unique de l'espace CEDEAO?
Je pense que... Et au niveau de la CEDEAO, on est en train de mettre sur pied certaines dispositions pratiques. Et quand on suit un peu l'historique, c'était depuis 2009, qu'on a, le 29 juin 2009 plus précisément, que les dirigeants de la CEDEAO ont adopté ce nom-là, d'éco sans accent, qui était relatif à la création d'une monnaie commune de la CEDEAO. Depuis, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Il y a eu 2009-2015, où il y a eu des mises en place reportées, il y a eu des discussions qui ont été faites, il y a eu certaines adoptions, et comme je le disais tout à l'heure, pour le nom ECO, on est arrivé en 2020 où il y a des conditions qui ont été exigées par certains pays, dont le Nigeria, pour pouvoir créer cette monnaie commune-là. Et aujourd'hui, ils sont passés aux modalités pratiques pour la création de l'ECO, qui est censée mettre fin aux différentes monnaies qui sont dans l'espace de la CEDEAO.
La question, pour aller un peu dans vos sens, a été abordée récemment lors d'une rencontre des dirigeants de la CEDEAO. La question a été abordée en termes de calendrier, aussi des obligations de chaque pays, quand nous parlons de critères de convergence notamment.
Tout à fait. Donc, je le disais tantôt, outre ces critères-là de convergence, ils sont passés donc aux différentes modalités pratiques. Mm-hmm. Et qui consistait, pour vous dire qu'ils sont arrivés un peu loin quand même, à l'évaluation des coûts, parce que ça entraîne toujours des coûts,
bien sûr,
et à l'identification des modalités de financement, de la mise en place des institutions pour la création de cette monnaie-là. Et tout cela devrait se faire lors de la première session ordinaire de 2025. Et puis aussi, ils ont estimé qu'il fallait dresser le sentier de convergence macroéconomique dont vous venez de parler tout à l'heure. Alors, pour ce sentier de convergence macroéconomique de la CEDEAO, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord les critères de convergence. Et en termes de critères de convergence, il y a le déficit budgétaire qu'il fallait fixer à 3%. Il faut dire qu'au niveau de l'UEMOA, nous, on respecte ce déficit budgétaire, ça a été reconduit. Mais pour ce qui est, par exemple, du taux d'inflation, ils ont estimé que ce taux d'inflation pouvait aller jusqu'à 10%.
C'est pour rapprocher du taux de ceux qui ont la monnaie flexible.
Exactement. Parce qu'eux, actuellement, ils vont jusqu'à 15-20%. Donc, ils ont estimé que jusqu'à 10%, ça pouvait être soutenable. Et puis, en plus, il y a d'autres politiques macroéconomiques qui ont été engendrées, telles que les politiques fiscales, les dépenses publiques dont je viens de parler, la gestion de la dette, voilà à quel niveau d'endettement ces pays-là sont. Parce qu'on ne peut pas aller à une monnaie unique si certains pays sont hyper endettés. Et puis, voir un peu aussi le niveau du taux de croissance macroéconomique et pourquoi pas le taux de change. Mais ce qui n'a pas encore été véritablement mis en œuvre, ce sont les taux de change.
Justement, la question ici, quand nous regardons cet espace, on a parlé de la zone UEMOA qui a une monnaie fixe et qui est arrimée à une autre monnaie étrangère, l'euro. Maintenant, les autres monnaies n'ont pas d'attache. Comment réussir à converger tout cela? En tout cas, quelles sont les politiques qui s'offrent à ces dirigeants-là?
Et c'est justement ça le problème. Quel est le taux de change qu'il faut adopter? Et chacun de son côté essaie d'exhiber ce qu'il trouve de mieux. Et alors que ce qu'il faut faire, c'est de voir un peu quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut prendre pour qu'il y ait une convergence commune. Et logiquement, cette convergence devait entraîner la réduction des fluctuations économiques au niveau des différents États et permettre une plus grande stabilité macroéconomique. Et puis ensuite, il faudrait que se réalisent les différentes variables macroéconomiques telles que la variation politique du taux de croissance macro, qui est le PIB, la faible inflation, une balance des paiements courants équilibrée, etc., etc. Donc l'objectif est de voir quelle est la monnaie qui aspire à ce but-là de cette convergence-là. Quelle est la monnaie qui peut amener ces pays-là à atteindre la convergence dont je viens de parler? C'est un peu ça. Et je crois qu'ils n'ont pas encore véritablement trouvé la voie, j'allais dire, commune. Ils n'ont pas, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'adoption pour un éventuel taux de change, qu'il soit fixe ou bien qu'il soit flexible. Tout dépendra maintenant des résultats des différentes économies et puis de ce que chacun pourra faire prévaloir. avant de mettre sur pied une véritable action commune. Quant au choix d'un taux de change qui soit fixe, qu'il soit flottant ou même qu'il soit flexible, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a un fait notable hein, dans l'évolution de cette monnaie. C'est le Nigeria qui, selon le constat, hein, était un peu réticent, mais qui décide hein, de manière ouverte et est disposé à aller justement à cette monnaie-là désormais. Quel pourrait être le poids de ce géant ouest-africain dans la réalisation justement de cette monnaie éco en termes d'avantages et puis bon, l'inconvénient éventuellement?
Oui, le Nigeria à lui tout seul occupe sinon a atteint près de 70% du PIB de l'Union. Ils sont à plus de 400 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire est à 75 milliards de dollars. Donc c'est un géant de l'Afrique. D'ailleurs, même en termes de PIB, ils étaient au-devant de tous les pays africains. C'est vrai que ces dernières années, ils ont connu quelques perturbations et certains pays sont venus les dépasser. Ils doivent être en deuxième ou troisième position. Mais toujours est-il que c'est un pays qui est très, très, très dynamique. Et logiquement, ce pays devrait être au-devant de nos aptitudes économiques et financières. L'objectif ici, c'est de voir si, avec le Nigeria et les autres pays, on peut avoir une balance des paiements qui soit largement excédentaire. En fait, c'est ça le problème de la monnaie. Si vous avez une balance des paiements largement excédentaire, si on fait une projection de cette balance des paiements et qu'on pense que sur les 10, 15, 20 prochaines années, cet excédent sera encore plus important, plus considérable, il va de soi que la balance commune va dégager un solde monétaire négatif. Et vous savez qu'en économie, un solde monétaire négatif, c'est un très bon solde. Donc, ce qu'on attend pour moi, c'est de voir exactement si les projections qu'on peut faire maintenant pourraient nous donner une assurance quant à l'évolution positive de la gestion de notre intégration monétaire.
Mais concrètement, un pays comme le Nigeria, est-ce que la Côte d'Ivoire, qui on peut le dire est la deuxième économie de l'espace CDAO, bon, avoir ce partenaire, est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi qu'au plan économique, on soit phagocyté ou bien c'est plutôt avantageux d'avoir aussi un géant dans cet espace, dans cette monnaie en création?
Non, je pense que vous pouvez prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous, on a 40% du PIB de l'Union, mais je ne crois pas un seul instant qu'on ait phagocyté les pays qui nous entourent. Bien au contraire, nous faisons chemin ensemble. Et dans ce cadre bien précis, nous mettons ensemble tous nos avoirs extérieurs nets et celui qui a des difficultés en matière de gestion de sa politique financière extérieure, c'est-à-dire celui qui a des difficultés de balance des paiements, qui n'a pas les devises requises pour pouvoir financer ses opérations d'importation, ben il va dans la caisse commune. Donc avoir avec nous un pays comme le Nigeria, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que cela va nous permettre de réduire certainement le niveau de notre endettement. Parce qu'un pays dont le PIB fait pratiquement 6 fois celui de la Côte d'Ivoire et un pays dont le PIB fait 70% des PIB de l'espace CDAO, je pense que les autres pays devront logiquement avoir des aptitudes qui pourront leur permettre de développer leurs économies. Et donc il n'est pas question un seul instant de dire que ces économies seront phagocytées par le Nigeria, bien au contraire.
Alors mais il y a aussi une autre réalité, on peut dire, qui peut handicaper la réalisation de ce projet, c'est la décision de 3 pays membres initialement de la CDAO, mais qui ont décidé de faire cavalier seul. Hein. Il s'agit donc des trios Burkina Faso, Mali et puis le Niger. Une telle décision, c'est vrai, ces pays sont pour l'instant membres de l'UEMOA, mais si à terme la monnaie éco est donc réalisée, la décision politique de ces 3 pays de se retirer de la CDAO, est-ce que ça peut handicaper ce projet?
En termes d'impact, je pense que leur départ pourrait entraîner effectivement un impact négatif quant à la réduction de la valeur intrinsèque du solde primaire de la balance des paiements, parce que logiquement, on doit avoir un solde première qui est négatif, ça va réduire cette force-là certainement, mais cela ne veut pas dire que la CDAO n'aura pas sa force d'antan pour pouvoir promouvoir ses politiques économiques et financières, non. C'est un pays, c'est un espace économique et financier qui est important, qui est large, c'est un pays qui est très riche. Vous n'avez qu'à voir le sous-sol de ce pays-là, et je pense donc que tout se joue au niveau de la balance des paiements, c'est-à-dire du secteur primaire, hein, de la première ligne de la balance des paiements. Je ne crois pas que le départ de ces trois pays va entraîner un solde négatif quant à la première ligne de cette balance des paiements, quand on sait que c'est la première ligne qui fait véritablement la force, hein, la force financière d'un pays. C'est avec cette première ligne-là qu'on lance véritablement un processus de création monétaire viable. Si cette première ligne est en danger, c'est-à-dire si le solde n'est pas positif, il s'agit de la balance commerciale, de la balance des services et puis de la balance primaire là. Et si la somme de ces trois banques ne donne pas un solde positif, bien, il va sans dire que le processus de création monétaire lui-même est menacé. Donc si le départ de ces trois pays devrait avoir une influence négative sur le solde primaire de cette banque des paiements, je dirais oui. Mais à ma connaissance, je ne pense pas que leur départ pourrait entraîner des conséquences négatives sur la gestion des politiques économiques et financières de nos États. Mais il est bon d'avoir avec nous ces trois pays-là qui, il faut le dire, sont aussi des pays importants. Aujourd'hui, leur sous-sol regorge des richesses. Je crois qu'on découvre du pétrole un peu partout. Il y a certains pays où il y a de l'or. Et donc, ces pays-là pourraient apporter un plus quant à la gestion économique et financière de l'espace CEDEAO. Donc, si vous demandez mon avis, il n'est pas question de leur demander de partir. Bien au contraire, c'est l'Union qui fait la force. Il faut leur demander de revenir.
Alors, une date, 2027, indication. Est-ce que vous y croyez déjà en termes de réalisation de cette monnaie?
Oui, moi je pense que tout est une question, ce sont des questions purement politiques. Sinon, nos pays ont la capacité de créer une monnaie qui est viable. Alors, un pays comme le Nigeria, qui a plus de 400 milliards de dollars en termes de PIB, quand vous y ajoutez les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, toute l'Afrique, membre de l'UEMOA et puis les autres pays là, je pense qu'on peut créer une monnaie. Créer une monnaie, mais ce n'est pas sorcier. Créer une monnaie, c'est avoir une balance des paiements qui soit viable. Créer une monnaie, c'est avoir une économie qui soit viable. Une économie qui est viable, c'est quoi? C'est une économie qui réalise beaucoup d'exportations par rapport à ses importations. Il faudrait que les exportations soient supérieures aux importations. Or, lorsqu'on va dans ce pays, lorsqu'on voit les possibilités économiques et financières de ces pays-là, mais ces pays peuvent soutenir une monnaie. Parce que le processus de création monétaire obéit à une garantie. Et cette garantie ne peut se faire que par des avoirs extérieurs nets. Voilà. Donc, pour ma part, ces pays-là peuvent créer une monnaie commune si ces pays mettent de côté leurs différents problèmes politiques.
En tout cas, si c'était M. Fossé-Ndozon, voilà, on parlait de la création de l'ECO, future monnaie de l'espace CEDEAO, bien sûr. Merci à vous, M. Fossé-Ndozon, pour ces éclairages. Merci à vous, à mes auditeurs, de votre fidélité. Economia se prend et ses fins. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour encore un autre numéro. Merci et portez-vous bien.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.